Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 13 février 2023. En direct de Washington, Idrissa Sibudia. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, au moins 12 civils tués par des djihadistes présumés près du Mali. Au Gabon, concertation de la classe politique aujourd'hui sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Le dernier bilan des tremblements de terre fait état de plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie. Un nouvel objet volant a été abattu par l'armée américaine, le quatrième en moins de 10 jours. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, des habitants ont indiqué hier qu'au moins 12 civils ont été tués et 6 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du pays. Gaby Dorsil.
Des dizaines d'hommes à moto ont attaqué le village de Sanakadougou de la commune de Kombori dans la province de la Kossi, a indiqué un habitant, disant qu'ils ont incendié plusieurs maisons et tiré sur la population. Un autre résident a dit que presque tous les greniers ont été incendiés, affirmant que la population a commencé à quitter la zone depuis vendredi. Les assaillants ont tout pillé et emporté le bétail, a poursuivi ce témoin, précisant avoir trouvé refuge à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi. Ce dernier a également indiqué craindre un bilan plus élevé dans la zone après l'attaque d'une autre localité voisine, Yaran, dimanche matin par des groupes armés. Près de 100 personnes sont mortes en 2 semaines dans diverses attaques des djihadistes. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État, s'est donné pour objectif la reconquête du territoire occupé par ces hordes de terroristes qui contrôlent 40% du pays. La junte au pouvoir, qui revendique sa volonté de retrouver sa souveraineté dans la lutte anti-djihadiste, a demandé aux forces spéciales françaises basées à Ouagadougou de quitter le Burkina Faso d'ici la fin du mois.
Au Gabon, l'heure est au dialogue politique entre majorité et opposition. La rencontre, présidée ce lundi par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, doit jeter les bases d'une organisation transparente et apaisée de la prochaine présidentielle. Un scrutin qui sera immédiatement suivi par les législatives et les élections locales. Cette concertation de la classe politique gabonaise intervient un peu plus d'un mois après l'annonce officielle du rendez-vous avec par le président gabonais lors d'une allocution télévisée. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Dans son discours à la nation du 31 décembre dernier, Ali Bongo Ondimba déclarait en effet, je le cite, « J'ai entendu l'appel de mes compatriotes, notamment les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir ensemble les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé. » Fin de citation. C'est donc ce conclave annoncé par l'exécutif qui se tient ce lundi à Libreville. Pas moins d'une centaine de partis politiques légalement constitués y sont conviés. Le menu des discussions qui semble susciter des accords comprend notamment la révision des listes électorales, le convoyage des urnes, le comptage des votes et la centralisation des résultats. Rappelons que la présidentielle de 2016 remportée par Ali Bongo s'était soldée par de violentes émeutes à Libreville comme à l'intérieur du pays. La thèse soutenue par les partisans du dialogue préélectoral de 2023 est de sortir le pays du cycle vicieux de contestation, répression et concertation. Une énième concertation de la classe politique qui se fera sans la présence de Jinping, qui n'a pas fini de revendiquer sa victoire lors de la dernière présidentielle au Gabon. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
La mère et la sœur de la militante franco-algérienne Amira Mouraoui, au cœur d'un incident diplomatique entre l'Algérie et la France, ont été arrêtés à Alger, selon une ONG et un média. Arrêtée le 3 février en Tunisie, la militante avait embarqué le 6 février sur un vol à destination de la France. Jugeant qu'il s'agit d'une exfiltration illégale, Alger a rappelé son ambassadeur pour consultation. Madame Bourouaoui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Selon le Comité national pour la libération des détenus et la radio M, sa mère et sa sœur ont été arrêtées samedi à Alger. La sœur a été relâchée hier et la mère a été transférée à Annaba, où elle risque d'être présentée devant le procureur. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a prévenu dimanche que son pays pourrait rompre ses liens avec le géant du diamant sud-africain De Beers si les discussions pour renégocier un accord de vente s'avéraient défavorables pour son pays. L'accord de vente de 2011, régissant les conditions de commercialisation des diamants produits par Debswana, une co-entreprise à part égale entre le gouvernement et De Beers, a pris fin en 2021, mais en raison du coronavirus, il a été prolongé jusqu'au 30 juin 2023. En vertu de l'accord de 2011, la compagnie minière De Beers recevrait 90% des diamants bruts produits, tandis que le Botswana, premier producteur de diamants d'Afrique, en recevait 10%.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un nouveau convoi de l'ONU est arrivé hier en Syrie depuis la Turquie avec du matériel d'urgence pour les victimes du séisme dont le bilan s'élève à plus de 33 000 morts dans ces deux pays. L'ONU a reconnu des carences dans l'acheminement de l'aide aux régions syriennes déchirées par la guerre. Nathalie Barge.
10 camions ont franchi la frontière au seul point de passage opérationnel depuis la Turquie vers les zones rebelles en Syrie. Nous avons fait défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie, a reconnu le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, ajoutant qu'il faut corriger cet échec au plus vite. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rencontré le président syrien Bachar al-Assad hier à Damas, assurant que ce dernier envisageait l'ouverture de nouveaux points de passage pour acheminer l'aide aux zones rebelles. Bachar al-Assad a remercié les Émirats arabes unis pour leur aide humanitaire alors qu'il recevait le chef de la diplomatie émiratie. Une soixantaine d'avions chargés d'aide ont atterri dans le pays et d'autres sont attendus en provenance notamment d'Arabie saoudite. En Turquie, plus de 40 000 personnes sont mobilisées pour les opérations de secours, dont 8 000 secouristes étrangers. La médiocre construction des bâtiments qui se sont effondrés suscite la colère dans le pays. Les médias ont annoncé l'arrestation d'une dizaine d'entrepreneurs du secteur du bâtiment. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères grec, Nikos Dendias, s'est rendu dimanche dans les zones sinistrées avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu. Les deux hommes ont évoqué de meilleures relations entre leurs deux pays.
Washington a annoncé dimanche avoir abattu un nouvel objet en altitude, cette fois-ci au-dessus du lac Huron, dernier en date de mystérieux objets volants qui ont placé les autorités des États-Unis et du Canada en état d'alerte. Georges Léonard Sagnot.
C'est le troisième objet à être abattu en 3 jours par les Américains dans leur pays et au Canada, et le quatrième en moins de 10 jours, en comptant le ballon chinois, décrit par Washington comme un agent d'espionnage et visé par un missile le 4 février, après avoir survolé une partie des États-Unis. Dimanche, la secrétaire adjointe à la défense américaine, Melissa Dorton, a déclaré que des contacts ont été pris avec la Chine au sujet de ce premier ballon, sans en préciser la nature. Bien que le quatrième objet abattu n'ait pas été considéré comme une menace militaire pour le sol, il a été abattu par un F-16 parce que son parcours et son altitude auraient pu représenter un risque pour l'aviation civile, a précisé le Pentagone. Ce nouvel objet semble être la raison pour laquelle l'espace aérien au-dessus du Montana, puis d'une partie du lac Michigan, a été fermé, respectivement samedi et dimanche, pour des motifs de défense nationale. Cette semaine, 2 autres objets volants ont été abattus par les forces américaines, l'un vendredi au-dessus de l'Alaska, l'autre samedi au Canada. Le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu dimanche soir dans la province du Yukon sur les lieux où le troisième a été abattu, tandis que Washington et Ottawa s'affairent toujours à récolter les restes des engins.
Israël a mené dans la nuit de dimanche à lundi des frappes aériennes contre un complexe militaire du Hamas à Gaza en réponse à une roquette tirée à partir du territoire palestinien, a indiqué l'armée lundi matin. Pour ceux qui s'intéressent au football américain, les Kansas City Chiefs sont maintenant le champion du Super Bowl. La Munité Pro, Clermont-Rhin-Gibourg.
La Côte d'Ivoire a lancé jeudi dernier son pass touristique digital. Cette carte prépayée donne accès à des avantages et des offres exclusives et est reliée à une plateforme numérique nationale qui recense les établissements touristiques du pays. Le ministre du Tourisme, Siondou Fofana, a insisté sur le fait que cette application mobile, pouvant servir de portefeuille électronique, visait aussi l'inclusion financière et une meilleure bancarisation de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a signé un nouveau prêt de 21 milliards de francs CFA avec la Banque islamique de développement. Ces fonds sont destinés à la reconstruction et au développement des régions du nord-ouest et sud-ouest anglophones. Cela s'ajoute aux 11,5 milliards de francs CFA déjà débloqués pour réhabiliter ou reconstruire des infrastructures détruites par le conflit avec les séparatistes. L'Agence internationale de l'énergie a convoqué pour mercredi une rare réunion spéciale avec les ministres d'une quarantaine de pays pour étudier la situation des marchés du gaz. Ce sont les marchés du gaz qui ont subi les plus fortes perturbations depuis l'invasion russe en Ukraine il y a presque un an, avec des pics de prix historiques et une pression inédite sur les marchés mondiaux de l'énergie.
Merci Claire. Les sports à présent avec Élisée Pompatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Rien que du football ce matin et on commence par les interclubs de la CAF. La première journée des matchs de poule a pris fin ce dimanche avec la Coupe de la CAF.
Oui, et belle entame du TP Mazembe, vainqueur 3 buts à 1 des Maliens de l'Est Real de Bamako. Les Kobos partagent la première place du groupe D avec les Tunisiens de l'UM Monasti qui ont battu 2-0 les Tanzaniens de Young Africans. Dans la poule B, ce sont les Diables Noirs du Congo qui sont en tête après leur large victoire 3 buts à 0 sur les Nigériens de Rivers. Ils comptent 2 points de plus que le Daring Club Motéba Pembe qui est allé accrocher l'ASEC Mimosa à domicile. Pour la suite des résultats de cette première journée, net succès de Murano Galant d'Afrique du Sud 4-1 sur les Libyens d'Al Akhdar et nul 1-1 entre les Togolais de Lasco de Kara et les Égyptiens de Futu FC.
En Ligue des Champions, en attendant l'entrée en lice du Wydad de Casablanca et Al Ahly du Caire, engagés en Coupe du Monde des clubs, quelques ténors ont bien démarré.
Vous résumez bien la situation. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs 1-0 des Soudanais d'Al Hilal. Même score en faveur de l'Espérance de Tunis devant Al Merrikh, le deuxième club soudanais. Les Tunisiens partagent la tête du groupe D avec les Algériens du CR Belouizdad qui sont allés battre à la surprise générale 1-0 le Zamalek au Caire. Bon résultat également du second représentant algérien. Logé dans la poule A, la JS Kabylie, auteur d'un nul 0-0 sur le terrain des Angolais du Petro Atlético de Luanda.
Dans le groupe C, le Oroya de Conakry a aussi réussi son entrée.
Oui, le seul représentant de l'Afrique de l'Ouest a juste réalisé l'essentiel 1-0 devant les Tanzaniens de Simba, de quoi satisfaire le défenseur malien Issiaka Samake.
Satisfait, mais rien n'est fait. On a joué contre une équipe pas des plus expérimentés que nous, mais nous on est plus expérimentés que nous. On peut dire qu'ils se sont bien organisés que nous. Et sur le plan physique, je pense qu'on a répondu. Notre temps fort, on a pu marquer. Et le temps faible, on a pu défendre. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que si tu ne marques pas, il ne faut pas encaisser. Ça, c'est notre marque de fabrique. Je pense qu'on va continuer sur ça. Avec ça, on pourra aller loin. Quoi.
Les Guinéens sont deuxièmes du groupe à égalité de points avec les Marocains du Raja de Casablanca qui ont démarré fort en écrasant 5-0 les Ougandais de Viper.
On reste au Maroc avec l'épilogue de la Coupe du Monde des clubs et sans aucune surprise, le Real Madrid remporte le trophée.
Exactement, Idrissa. Les Espagnols ont fait respecter la hiérarchie préétablie au terme d'un match spectaculaire. Ils ont dominé les Saoudiens d'Al Hilal, victoire 5 buts à 3. A noter que l'Afrique n'aura pas d'équipe sur le podium cette année. Al Ahly du Caire battu 4 buts à 2 en match de classement par les Brésiliens de Flamengo.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, la Journée mondiale de la radio est célébrée ce lundi dans un environnement de peur. Les professionnels de ce média et le public sont consternés par l'assassinat de deux journalistes au cours des mois de janvier et de février. Il s'agit de Martinez Zogo, qui dénonçait les détournements présumés de fonds, et d'un prêtre orthodoxe, présentateur radio, proche du défunt journaliste. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tape.
Qu'est-ce que Paul Biya a dit aux jeunes et que dire de sa posture sur l'affaire de Martinez Zogo?
L'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, en débat sur le plateau de l'émission Baromètre politique, diffusée sur les antennes de Royal FM, une station privée qui émet depuis Yaoundé.
Il faut encourager la presse.
Sylvestre Nieck est militant de l'Union des populations du Cameroun. Il se prononce sur le silence du président Paul Biya au sujet de l'assassinat de Martinez Zogo dans son allocution à la jeunesse le 10 février dernier.
Tout le monde doit penser que si vous dites une certaine chose pour nous, pour être tué, alors que c'est le président qui nous demande de dénoncer tout ce qui est contre aux intérêts du Cameroun. Il faut qu'il nous encourage à continuer à faire, malgré le risque que nous courons, et nous garantissons de quelqu'un que nous serons protégés.
11 jours après la découverte du corps du journaliste Martinez Zogo, un autre homme de médias, Jean-Jacques Ola Bébé, présentateur radio et prêtre orthodoxe, a été abattu par des inconnus près de son domicile à Yaoundé. Jean-Patient Tiala, secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun dans la région du centre.
Donc ce n'est pas une bonne image que nous renvoyons à travers le monde, mais je ne suis pas pessimiste, mais optimiste, parce que nous pouvons capitaliser cela pour faire avancer les choses. Tout en pleurant Martinez Zogo, nous pouvons faire que la radio se porte mieux au Cameroun. Mais ce qui tire le Cameroun vers le bas, malheureusement, il faut que le chef d'État trouve des solutions.
Le corps de Martinez Zogo a visiblement subi des sévices corporels, selon le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi. Pour cet admirateur du défunt, cet acte met en péril la liberté d'expression au pays.
La liberté de presse au Cameroun, il n'y en a pas. Chaque jour, on nous dit la liberté de presse. Dès que tu lèves ta voix, on t'éteint. Lorsque tu veux résister, voilà ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Nous allons faire comment nous qui restons. C'est fini pour nous.
Les enquêtes prescrites par le président Paul Biya ont conduit à plusieurs interpellations. Mais cela est loin de déteindre sur la gravité des faits. Jean-Bruno Tanier, journaliste et directeur général de Naja TV.
Tout ça est absolument choquant et inacceptable que dans un pays comme le nôtre, on enlève un journaliste et en plus qu'on l'assassine de manière aussi barbare et quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à présent. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une escalade, que le Cameroun est en train d'inaugurer un peu l'ère des escadrons de la mort où on envoie des type assassiner ceux avec qui on n'est pas d'accord.
Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, et le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, ont dans deux communautés distincts réitéré que le Cameroun est un État qui entend garantir la liberté de la presse, la démocratie et les droits de l'homme. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La 9e édition du festival Amani a été délocalisée à Bukavu, au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce rendez-vous culturel annuel a été respecté par les festivaliers. Les populations de la sous-région des Grands Lacs africains sont venues massivement participer à cette messe culturelle. Comme toujours, ce festival a été un moyen de promouvoir la paix dans une région minée par l'instabilité. Davantage de détails avec notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Cette année, la 9e édition du festival Amani s'est tenue à l'Athénée des Banda à Bukavu. Ce festival, qui a duré 3 jours, du vendredi 10 au dimanche 12 février, a rassemblé des milliers de festivaliers avec pour seul objectif de véhiculer le message de la paix à travers la musique et la danse. Pour les festivaliers, ce festival a sa raison d'être dans cette région instable qui donne aussi souvent lieu à des conflits ethniques. Écoutons l'un d'eux, Jean Kassambia.
Je me sens très bien parce que pendant les jours passés ici, j'ai bénéficié des très bons enseignements. Cela peut aider à la restauration de la paix. On nous apprend à chercher la paix et j'espère qu'après ici, il y aura une URDP.
Les 8 autres éditions ont eu lieu à Goma, la ville voisine, qui est la capitale de la province du Nord Kivu. Malgré sa délocalisation, des jeunes de la ville de Goma se sont rendus dans la ville de Bukavu pour participer à l'événement qui, selon eux, reste un symbole de paix dans la région. Patrick Mundeke est un jeune homme de Goma qui s'est rendu à Bukavu pour participer au festival.
Nous sommes obligés de nous déplacer à Bukavu pour suivre notre festival. C'est une partie de nous. Et ce festival nous réunit tous. Ici, on ne demande pas les tribus, les ethnies, on ne demande pas les partis politiques. On est tous les enfants du monde qui dansons ensemble. Et quand vous avez dansé ensemble, il est impossible que vous vous tirez d'ici demain.
Les danses traditionnelles burundaises étaient également là pour égayer les festivaliers. Une manière de prouver une cohésion entre le pays de la communauté est-africaine, selon Agorerimana Guerrera, l'artiste burundais présent au festival.
Si nous sommes ici, c'est grâce à l'autorisation du gouvernement burundais pour valoriser ces festivals, pour montrer au monde entier que nous sommes ensemble et que nous devons continuer à nous soutenir, à nous former.
Pendant ces grands événements, plus de 700 jeunes se sont portés volontaires pour faire de ces festivals un succès. En outre, le festival a créé une fenêtre d'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent faire connaître leurs projets. Des stands étaient disponibles pour exposer leur savoir-faire dans tous les domaines. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
À 2 semaines de l'élection présidentielle au Nigeria, la colère gronde dans le pays le plus peuplé d'Afrique, en proie à de graves pénuries d'essence et de nouveaux billets de banque. C'est le cas notamment à Kano, deuxième ville la plus peuplée du pays, et cœur commercial du Nord majoritairement musulman. Le récit est de Jacques Aristide.
Le jour se lève à peine sur le Nigeria, mais les nerfs sont déjà à vif devant la First Bank à Kano, où une foule de clients agglutinés jouent des coudes pour retirer le maximum autorisé en ces jours de chaos monétaire, 10 000 naira par personne. Mohamed Rabiou est un homme d'affaires de 52 ans et père de 7 enfants.
Il y a l'apathie des électeurs. Les gens ne vont pas voter parce que tout le monde est en colère contre le gouvernement. Parce que nous faisons la queue pour le carburant, pour votre propre argent qui est dans votre banque. Le gouvernement a collecté tout notre argent. Nous sommes tous contrariés. Nous avons faim depuis ce matin, 4 heures, je suis ici, je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Pourquoi je fais la queue pour seulement 4000 naira?
Les agences bancaires de la ville ont été assiégées dès l'aube par des foules avides de cash, de plus en plus rares depuis que les autorités ont annoncé le remplacement des billets de banque par une nouvelle génération de coupures. Le mécanicien Awolu Issa, âgé de 50 ans, a 3 enfants.
Je ne peux pas voter pour qui que ce soit. Je ne peux plus voter pour personne. Parce que si je vous parle du genre de choses dont je souffre, de 2015 à aujourd'hui, vous ne me croirez pas. Je n'apprécie pas ce gouvernement. Comment pourrais-je voter à nouveau?
Dans le grand carrefour commercial du nord nigérian, des centaines de voitures, motos et taxis assiègent également depuis le début de la matinée les stations essence dans l'espoir de déjouer une autre pénurie, celle du carburant. Paul Odou Héroumé, 58 ans, père de 6 enfants et chauffeur de mototaxi.
Cela m'affecte économiquement. Je ne peux pas répondre aux besoins de mes enfants, je ne peux pas répondre aux besoins de ma famille. Pourquoi? Parce que si le carburant est rare, je ne peux pas travailler comme je suis censé le faire. Je ne peux pas aller où je suis censé aller. S'ils achètent ce réservoir maintenant, un réservoir plein de kékés coûte de 1200 à 1300 naira. Celui-là, avant qu'il ne finisse, si vous voulez l'avoir au prix du gouvernement, vous ne pouvez pas l'avoir.
La frustration de la rue a récemment provoqué des heurts quand le chef de l'État nigérian s'est rendu à Kano. Pourtant, l'un de ses bastions est l'une des clés de la présidentielle du 25 février. À 2 semaines du scrutin, qui doit donc donner un successeur à Muhammadu Buhari, lequel s'annonce serré, les pénuries plombent la plus grande économie d'Afrique, aiguisent la colère populaire et éclipsent la campagne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Guinée, la sculpture d'œuvres de grande taille et l'arboriculture, deux métiers rares qui peinent à nourrir leurs hommes. À Conakry, notre correspondant a rencontré un sculpteur et un arboriculteur confrontés aux difficultés, celles d'écouler leurs produits dans une capitale dont les habitants consacrent essentiellement leurs revenus au transport et à la nourriture. Un reportage de Zakaria Camara.
Les statues grandeur nature n'ont aucun secret pour Sékou Oumar Sidimé. Des animaux ou encore des personnalités socioculturelles guinéennes sont représentées sous leur grand format.
Bon, ça c'est la maman africaine, je peux dire une femme guinéenne. Elle a ses enfants, voilà un plateau de fruits. La grande sœur est avec le petit frère, les deux là sont des jumeaux. Ça c'est une culture guinéenne. Ça c'est l'animal zèbre. Avant il y avait ça en Guinée, il y avait ça en Afrique, mais ça manque. Nos enfants d'aujourd'hui n'ont jamais vu comment le zèbre est. Alors nous on essaye de copier. Ça c'est Hippotrache. Voilà, ça c'est un éléphant, tout le monde connaît, c'est un symbole de la Guinée.
Pour réaliser ses œuvres, l'artiste utilise le fer, le ciment et la peinture, une activité rare et singulière à l'image de l'arboriculture.
Je produis les arbres fruitiers, il y a les manguiers, les acquiers, les corsoliers, les agrumes, il y a les orangers, les citronniers, les pamplemousses et les mandariniers. Et sur les plantes forestières, il y a les mélinas, les acacias amandium, les teks, etc.
Amadou Bella Baldé propose aussi des services d'aménagement d'extérieur, mais tout comme le sculpteur, l'arboriculteur peine à vendre ses produits.
C'est un grand problème, la clientèle, parce que des fois les gens se disent, au lieu d'acheter un arbre planté pendant que j'ai faim, je préférerais aller chercher à manger. Quand on vous dit 25 000 une plante. Il y a aujourd'hui des personnes, ils ont 30 ans, 40 ou même 50 ans, ils n'ont jamais planté un arbre.
Ici en Guinée, bon, on a trop de problèmes. Parce que quand on dit, donne un prix, le client qui vient, il pense d'abord que ça va faire combien de sacs de riz. Ouais, ça c'est un problème.
Si les figurines géantes de Sidimé sont visibles dans la capitale, il faudra du temps avant de voir les arbres d'Amadou produire des fruits à grande échelle à Conakry. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebilia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.